Bonjour, Marco. Compte à rebours. Compte à rebours, des contes, des histoires. La semaine dernière, on était avec au Roi du Sol, hein, avec le Bousier, hein, les souvenirs entomologistes de Jean-Henri Fabre. Et puis là, on revient au conte. Hein, on revient au conte. Comment je choisis ce que je vais raconter dans cette émission ? Eh bien, c'est un peu le hasard des lectures et parfois des musiques. Là, cette fois-ci, j'ai trouvé des musiques de Chine à la médiathèque de Caylus, faisant la publicité. Et c'est rare, les musiques de Chine actuelles, bon, aussi dans un esprit un peu traditionnel, des belles musiques. Je me suis dit, tiens, cherchons donc des histoires de Chine. Et bien sûr, j'ai trouvé, parce que j'ai quelques livres, notamment un livre, c'est un peu le Charles Perrault ou le Grimm de la Chine, le Pou, le lettré merveilleux, hein, donc qui a écrit tout un tas d'histoires, et une histoire de lettré. Et ensuite, il y aura une histoire du Tibet qui parlera de la Chine aussi. Tout ça avec des belles musiques. Alors, je ne vais pas parler trop pour qu'on ait le temps de profiter de ces musiques. La première histoire, donc, qui est un conte de Pou, un lettré qui a recueilli des contes dans la Chine ancienne, hein, il y a très longtemps. Enfin, c'était au 17e siècle, quelque chose comme ça. Et là, il raconte l'aventure d'un lettré. Un jour, un lettré, en chemin vers Nankin, où il était convoqué à l'examen officiel, s'arrêta à Souchien. Et là, fit la connaissance de trois habitants du village lettrés comme lui. Il fut à ce point conquis par le raffinement de leur langage qu'il se procura du vin, et les invita tous les trois à venir le boire en sa compagnie. Ils acceptèrent avec plaisir et déclinèrent alors leurs noms. Le premier s'appelait Chiuch Heng, le second Chang Feng Lin et le troisième Ma Tsi Chi. Ensemble, ils burent sec et bien et firent en sorte que les heures s'écoulèrent si joyeuses que le soir tomba sans qu'ils l'aient vu venir. Chie dit alors à leur hôte, « Nous, qui sommes ici chez nous, voilà que nous avons festoyé au frais d'un étranger. Cela n'est pas bien. Ma maison est tout près d'ici. Venez, vous y trouverez un lit pour passer la nuit. » Chang et Ma se levèrent aussitôt, prirent notre héros sous les bras et dirent à son serviteur de les suivre. Au pied des collines, celles qui s'étendaient au nord, ils traversèrent une maison entourée de jardins. Un ruisseau courait devant la porte et à l'intérieur, les appartements étaient confortables et décorés avec un goût parfait. Chie donna l'ordre que l'on allume les lampes et alla s'assurer que le serviteur de son invité ne manquait de rien. Ensuite, Ma fit observer qu'une ancienne coutume voulait que, avant de servir des nourritures substantielles, on offrit à un hôte quelques nourritures intellectuelles. « remplissons au mieux les heures de ce crépuscule et n'en gaspillons pas la douceur. Je vous propose de choisir 4 thèmes et nous nous pencherons alors sur les problèmes que posent les bouteilles lorsqu'elles sont encore pleines. La proposition fut acceptée. Chacun écrivit un sujet sur un morceau de papier et le déposa sur la table. Puis, ils se les distribuèrent au hasard et avant que le veilleur de nuit n'ait sonné la deuxième veille, tous les essais étaient terminés et soumis au jugement collectif. Notre ami fut à ce point frappé de l'élégance et de la vigueur de style de ceux qu'avaient composés ses 3 nouveaux amis. Il les recopia et il mit la feuille dans la poche de son habit. Puis, le maître de maison servit le vin, qui était excellent. Et ils l'apprécièrent avec tant de conviction que, bientôt, ils furent tous raisonnablement ivres. Ma et Chang prirent congé. Tie conduisit son hôte dans une autre pièce de la maison et le laissa se coucher, ce qu'il fit aussitôt, sans même prendre le temps de se déshabiller tant l'alcool lui chantait dans la tête. Quand il se réveilla, le soleil était haut dans le ciel. Autour de lui, il n'y avait plus ni maison ni jardin. Il était couché dans un creux d'herbe, non loin de son serviteur qui dormait encore. Très inquiet, il l'appela. Ils se levèrent et découvrirent alors tout près un trou au flanc de la colline devant lequel courait un filet d'eau. De plus en plus étonné, notre ami fouilla ses poches. La feuille sur laquelle il avait recopié les 3 essais de ses amis de la nuit était bien là. Ils descendirent au village, interrogèrent les gens et apprirent que l'endroit d'où ils venaient s'appelait la grotte des 3 génies et que ces génies étaient connus dans le pays sous les noms du crabe, du serpent et de la grenouille. C'étaient des créatures surnaturelles qui souvent sortaient de leurs trous pour se promener dans la campagne et de temps à autre se rendaient visibles. Plus tard, à Nankin, lorsque le héros de cette histoire pénétra dans la salle où se déroulaient les épreuves, il vit, à sa grande stupéfaction, que les 3 sujets proposés était très exactement ce que les 3 génies avaient choisi. Et il fut reçu premier de tous les candidats. L'impossible destin du fils de Gyal Apchi, un conte tibétain. Le fils de Gyal Apchi riait toujours en dormant. Pendant des années, sa mère resta sans rien dire. Mais comme le gamin n'était plus un enfant, elle ne se retint plus de lui demander. « Pourquoi ris-tu toujours comme ça quand tu dors, mon grand ?»« Pour rien, » dit-il, « je ne ris pour rien. »« Voyons, petit, ne sois pas timide avec moi. Tu sais bien que tu peux me dire tout ce qui te passe par la tête. Je suis ta mère. » Dans ce cas, je vais te dire pourquoi je ris la nuit. Je ris parce que toutes les nuits, je fais le même rêve. Je rêve qu'une moitié du ciel me sert de couverture et l'autre de matelas.
bientôt, la mère du rêveur, qui riait, consulta l'astrologue. Votre fils sera empereur de Chine, madame. C'est son destin, dit l'homme de l'art. L'épouse de Galapchi n'en crut rien, ni les voisins, ni le quartier, ni personne au monde. Si bien que la nouvelle du fort destin du clan Gyal se répandit partout le Tibet, puis en Chine voisine, jusqu'aux oreilles de l'empereur lui-même. Le fils du ciel, cependant, n'y attacha guère d'importance. « Comment voulez-vous, demanda-t-il à ses ministres, qu'un petit paysan s'assoie sur le trône du dragon ? Nous sommes un monarque absolument absolu et seule la mort nous fera changer de règne. » Les ministres opinèrent du bonnet, moins qu'ils ne branlassent du chef. Un signe d'assentiment, évidemment. Or, il se trouva que, avec le temps, cette histoire s'étoffa jusqu'à passer les limites. Cette rumeur idiote, ce lointain grognement de yak, s'installa définitivement dans les conduits auditifs du dragon, l'empereur de Chine lui-même. Dans les replis de sa verte cervelle, l'incertitude répandit ses spores fécondes et l'empereur eut comme un doute. Un coup de dague au cœur qui chaque nuit se répétait et qui finit par faire de lui le plus grand insomniaque de sa dynastie. Hâve, ce matin-là, comme il ne l'avait jamais été, il avoua enfin à son gouvernement combien le rêve de ce paysan tibétain l'obsédait. N'osant aller contre l'opinion de leur souverain, fut-elle erronée, les ministres crurent bon d'ajouter foi à la rumeur. Oui, le fils de certains Gyalapchi du Tibet ne tarderait pas à prendre place sur le trône de jade. « Non, fit une espèce de néo-confucianiste inspiré, nous n'allons quand même pas gober un chameau de cette taille. » Des heures passèrent avant que la cour ne se décide à consulter le grand astrologue impérial. « Il m'est insupportablement désagréable, majesté, de vous annoncer que je n'y peux rien, mais le ciel confirme l'ignoble rumeur. Ce gamin tibétain est incontestablement destiné à renverser l'ordre des choses en vous renversant, quoi que vous fassiez contre cette infamie. » À peine eut-il refermé sa bouche que le grand astrologue fut dûment décapité. Sa majesté déclara qu'il faudrait de même supprimer l'enfant au plus tôt, et son pouvoir était tel qu'il envoya un commando au Tibet, des hommes sûrs, de vrais Chinois, et ceux-ci lui ramenèrent légèrement ficelé le fils de Gyalapchi. « Alors ?» fit le dragon au gamin. « On rêve de diriger le vaste empire chinois ? Pas de problème. » Je te laisserai ma coiffe mienne et mon manteau kuen, si, et seulement si, tu me rapportes une fleur Aitsingpal, un cœur de Drémong et une fille du Septentrion. Reconduit au Tibet, le fils de Gyalapchi constata qu'il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il convenait de faire. Où donc? Et comment pourrait-il mettre la main sur ces trois choses? Et à l'exception du cœur de Drémong, il frémit de la tête aux pieds. Il n'avait jamais entendu parler de la fleur Aitsingpal et moins encore des filles du Septentrion. Le jeu en valait pourtant trop la peine. Et il partit en quête de toutes les réponses possibles. Ou, droit devant, et en riant comme s'il rêvait, il marcha des jours et des jours, jusqu'à son dernier sou. Les poches vides, autant que la pensée, il finit par désespérer et décida de rentrer chez lui. Il relevait la tête de ses dernières considérations lorsqu'il avisa un bonhomme, affligé d'immenses oreilles, qui s'approchait de lui. « Oh !» s'exclama-t-il, « quelle tête vous avez, vous ? Oh !»
Le compliment lui avait échappé. Il se rattrapa comme il pouvait. Où est-ce que vous allez ?
Nulle part en particulier, dit aimablement le bonhomme. Mais avec mes oreilles exceptionnelles, je peux entendre tout ce qu'on dit dans les trois mondes. Et en tout cas, moi, j'ai moins de chance que le fils de Gyalapchi, parce que celui-là, il a le karma qu'il faut pour devenir empereur de Chine.
Mais c'est moi, fit le gamin. C'est moi, le fils de Gyalapchi. En fait, j'étais parti à la recherche de trois choses, de trois introuvables choses.
Ah bon ?
Ah, j'avais pas dû bien goûter ce jour-là. Lesquels ?
De trois mystérieux objets que l'empereur de Chine en personne m'a prié de lui rapporter si je voulais qu'il me cède son trône.
« C'est merveilleux !» s'écria l'homme aux longues oreilles. « Vous ne voulez pas que je vous aide ?»
Eh, il devint rami, et le fils de Gyalapchi reprit courage.
Comme inlassablement, il cheminait à la recherche de la fleur à Yinxingpal, du cœur de Drémong et de la fille du Septentrion. Ils se lièrent d'amitié avec deux autres êtres peu communs. Le premier pouvait allonger les bras aussi loin qu'il le voulait, et le second, surnommé Gobe-Soleil, avait la bouche assez grande, en effet, pour se faire gober le soleil. Ainsi, le fils de Gyalapchi et les trois magiciens entreprirent-ils de trouver les trois objets bizarres et, tenez-vous bien, ils les trouvèrent. L'homme, aux bras extensibles, les étendit par-dessus les vallées et les cimes, par-dessus les vastes plaines et tout au fond de l'océan. Il cueillit une fleur Aitsingpal, autrement dit une anémone de mer, et la rapporta. C'est lui, et encore lui, qui de la même manière récupéra le cœur d'un terrible Drémong qui venait d'expirer en tombant dans un ravin. Quant à Gobe-Soleil, il dit seulement « Moi, je vais avaler le soleil pour plonger le monde dans l'obscurité. Mais pendant ce temps, toi, l'homme au long bras, tu pousseras tes mains jusqu'au pôle nord et tu enlèveras délicatement une fille du Septentrion. » Voilà qui fut fait, et bien fait. Le fils de Gyalapchi apporta triomphalement les rares choses à l'empereur qui voulut bien le recevoir sans protocole.
Je ne parviens pas à y croire, soupira l'empereur.
Un tout petit paysan comme toi, tu as réussi à réaliser ce que la plupart des héros n'auraient pu faire. Allez, laisse-moi, il faut que je réfléchisse.
Il va sans dire que l'empereur n'aurait cédé son trône pour rien au monde, ni à qui que ce fût, et surtout pas à ce Tibétain arriéré. Et pourtant, sa raison vacilla de nouveau. Si ce petit bouse-là était plus qu'un être humain ordinaire.
C'est peut-être un bodhisattva, pleurnichait-il contre le plastron de son grand conseiller.
Bodhisattva ou pas, dit ce dernier, « si vous voulez rester sur le trône, majesté, débarrassez-vous-en. Empoisonnons-le. »
« Parfait, parfait, » soupira l'empereur en reprenant vaguement espoir. « Vous préparerez un grand festin et le fils de ce Gyalapchi sera notre invité d'honneur. »
Or, le premier compagnon du gamin, l'homme aux grandes oreilles, avait tout entendu.
« Parfait !» répéta-t-il à l'adresse du fils de Gyalapchi. « L'empereur et son grand conseiller ont décidé de vous empoisonner. Voici mon plan. L'ombra intervertira vos plats et ceux de l'empereur, pendant que Gobe-Soleil fera le noir. Vous, ne touchez à rien. »
Dès le début du festin, Gobe-Soleil fit son travail et l'ombra le sien.
Je ne vous dis pas l'état de choc dans lequel cette éclipse imprévue plongea le souverain, son grand conseiller, ses ministres et le nouvel astrologue de la cour.
Ce dernier, d'ailleurs, n'aurait pas besoin d'être décapité. Son impéritie l'avait proprement étouffé. Il venait d'expirer en suffoquant d'horreur. Les Chinois, il est vrai, ne redoutent rien de plus que les éclipses de soleils imprévues. Et tous, alors, comprirent qu'on allait procéder à un changement dynastique d'envergure. Autour de la table du dragon et dans l'obscurité encore, certains pensaient que le fils du ciel devait abdiquer. Le soleil réapparut. Et tous les regards se braquèrent sur les baguettes du gamin. Allait-elle enfin cueillir un morceau bien empoisonné ? Oh oui, plus d'un ! L'enfant se régalait et eut bientôt vidé tous les plats qu'il avait devant lui. Mais par contre, il se portait parfaitement bien. Obsédé par leur nouvel échec, le grand conseiller et les ministres ne remarquèrent même pas que le dragon venait de s'éteindre sans bruit. Le repas terminé, chacun se leva, sauf l'empereur et le nouvel astrologue. Alors, que voulez-vous ? Subjugués par les pouvoirs surhumains du gamin, ils le portèrent sur le trône de jade du grand empire chinois. Le fils de Gyalapchi prit pour épouse la fille de Septentrion. De grandes oreilles, il fit son conseiller, de longs bras et gobe-soleil, ses premiers ministres de gauche et de droite. Il plut, et plut encore, mille prospérités. Paix aux 19 provinces et aux 18 principautés. Compte à rebours, c'est fini pour aujourd'hui. Je pensais qu'on avait encore le temps de passer de la musique, mais peut-être pas. En tout cas, voilà, c'était des contes de Chine et du Tibet avec des musiques de Chine, hein, des groupes chinois actuels. Eh bien, c'est fini, donc je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, c'était Marco, ciao.